retrouvez toutes les émissions en podcast sur breastless.com.
Bienvenue à vous toutes et à vous tous, et oui, ça y est, c'est le grand retour du grand débat visual-musique.org. Alors je tiens à vous rappeler, à vous toutes et tous, que ce site recueille un nombre incroyable d'interviews formidables qui sont menées de main de maître par le journaliste le plus extraordinaire d'investigation, le petit rouquin, Marc. Bonsoir.
Bonsoir, j'ai cherché la personne dans la pièce, apparemment c'est moi. Enchanté Pierre, ouais, comment
moi,
tu
j'ai pas de cheveux, puis bon bah voilà.
Comment ça va Pierre?
Ça va très bien, je suis très heureux de vous retrouver et je suis très heureux de pouvoir parler d'un personnage, parce que je vais pas donner le sujet, mais d'un personnage qui a quand même compté, je pense, pour nous tous.
Un personnage de Conte de Fées, bien entendu. Eh non, ce sera pas comme ça, oui. Ce type de podcast aujourd'hui. Et d'ailleurs, par mon podcast, je tiens à vous dire, première nouvelle, que j'ai rêvé du podcast cette nuit. Et c'est vrai, c'est quelque chose d'avéré.
On était en costume ou pas?
Non.
J'espère qu'on est habillé.
Écoutez,
non, parce qu'il y avait sûrement des costumes un peu chic.
Avec des épaulettes. Non, on était là, on était invités, on était trois. On était sans invité, on était bien. Est-ce que ça veut dire que vraiment là, j'ai signé...
C'était un cauchemar.
Voilà. J'ai signé l'arrêt de mort du fait d'avoir des invités, parce que de toute façon, on n'en cherche pas. Donc voilà. Comme d'habitude, nous avons notre troisième larron. Le dindon de la farce, peut-être.
Le dindon tout court, peut-être.
Je sais pas. Moi, j'aime bien la farce. Voilà, ça fait déjà 1 minute 30, les gens sont partis.
Il y a un jeu de l'attention, c'est ça? Il y a une vraie bataille vis-à-vis de ça.
Il y a un vrai sujet quand même. Il faut quand même le présenter.
Bien entendu. Alors, Nicolas, comment vas-tu?
Mais écoute, ça va toujours quand je suis là, enfermé avec vous deux. Hein, mais,
à double tour.
À double tour, j'ai pas le choix.
Derrière ce grand rideau,
le spectacle commence. Je dois sourire, il en va de ma vie.
Très, très beau costume aujourd'hui.
C'est bien parce qu'en plus, il a envie de chier, c'est écrit sur son t-shirt.
Il a un joli t-shirt Idols, je vous laisse le deviner parmi
pas
les
Idols, c'est
millions.
Le Brian Johnston Massacre.
Voilà. Ah oui, d'accord, je ne savais pas. Donc.
C'était une blague. Donc,
t'en fais beaucoup quand t'es bourré, mais là t'es pas bourré.
Non, je suis complètement sobre. Donc, Nicolas, qui pour ceux qui ne connaissent pas, a pour patronyme Lewandowski, en plus de Nicolas sur les internets, et officie pour Mono et Goutte Mes Disques.
C'est ça.
Quelle est l'actualité par rapport à ça? Quels sont les derniers invités que tu as pu interviewer? Les derniers artistes à qui tu as pu parler?
Alors, l'actualité, c'est que vous pouvez précommander dès maintenant le numéro 6 de la revue Mono.
Oui, très bien.
Avec, en 45 tours, deux titres de Daria et Fragile. J'ai pu m'occuper de Jim Askis, de Dinosaur Junior notamment, aussi Laya Saoudi de Fat White Family et Lancôme. Et le sommaire est bien, bien gavé, comme d'hab. Donc, allez sur le site et précommandez.
Bien gavé et gavé bien pour nos amis bordelais. Donc, la question du jour qui nous
sinon je les gifle.
Nous anime.
Mais je ne fais pas des amis encore.
La question du jour qui nous anime et qui nous occupe, c'est: est-ce que Steve Albini est-il vraiment le producteur de musique le plus influent en termes de rock des 30 dernières années? Oui, été, puisque Breaking News, pour ceux qui sont dans un igloo ou qui n'en ont rien à foutre, ce cher Steve Albini est décédé il y a peu d'une crise cardiaque alors qu'il était encore dans son studio d'enregistrement à 61 ans.
Voilà, mois de mai 2024.
Donc, exactement. Donc, loin de nous l'idée de vouloir faire dans le podcast nécrologique, mais on se sentait obligé, car choqué, de ce
hommage,
décès.
On va dire.
Exactement. De ce décès inattendu de l'un des parrains au sens large du rock'n'roll. Donc, inattendu, pourquoi ce décès? Parce que aussi l'actualité de Steve Albini, elle est très récente. Shellac, donc l'un de ses groupes phares, sortait son album le 17 mai et participait encore récemment à des vidéos explicatives autour de matériel sur YouTube. Donc,
ça arrivait vraiment comme un cheveu sur la soupe de nulle part.
Exactement. Exactement. Donc, pour vous donner un peu l'ordre de ce à quoi on va pas, de ce dont quoi on va parler, pardon, on va évoquer ses débuts rapidement pour savoir ce qui a amené cet homme. Qui est préféré être qualifié d'ingénieur du son plutôt que...
Ah, il détestait le terme producteur.
Que le statut de producteur qui est un peu plus ronflant. Donc, ce qui l'a amené à la musique, on va évoquer sa patte sonore, bien entendu, ses méthodes, sa position vis-à-vis de l'industrie musicale qui fait qu'il est un des personnages de la musique et qui est l'un des plus connus personnages de la musique rock, en tout cas. Et dans l'ordre, donc, pour ceux qui aiment quand c'est bien rangé, ses débuts, son approche, sans concession, ses faits d'armes, donc un petit listing des albums auxquels elle a participé. Morceau choisi, hein, parce qu'il a bossé sur plus d'un millier d'albums, donc si vous voulez pas que ce podcast soit un marathon, il va bien falloir qu'on fasse des choix. Et son héritage.
Ah, c'est pour ça qu'il y en avait certains qui étaient bâclés. Ah, pardon.
Exactement. Donc.
Il commence celui-là.
Donc, les débuts.
On n'aime pas Steve Albini, je suis désolé, son son. En vrai, je pense que les musiciens l'adorent. Quand t'aimes bien les bonnes grosses productions, c'était pas son rôle. Les gros trucs qui sonnent, machines, c'était pas son truc.
Clairement, c'était pas sa carte de visite et c'était absolument pas ce qu'il avait envie de faire non plus. On y reviendra. Donc, ce cher Steve, il est né en 1962 en Californie. Il déménage dans le calme du Montana assez vite avec une enfance des plus normales.
Voilà, c'est chiant le Montana.
Et donc, sa révélation, c'est quoi pour vous? Eh ben, je vais vous couper directement la chute.
C'est le premier
album des Ramones qu'il découvre adolescent. Donc, on va zapper les années qui suivent parce que bon, on n'est pas là non plus pour faire une bio.
Intéressant, je ne savais pas.
Ouais, bah, moi, je l'ai appris.
Ça veut dire quand même beaucoup. Ouais. Maintenant, j'ai compris.
Je l'ai appris dans un excellent article du Guardian qui a fait un portrait sur lui l'année dernière. Donc, c'est un très long article d'une dizaine de minutes qui revient sur toute sa carrière avec justement des citations du bonhomme, puisqu'il est interviewé chez lui en direct de son studio à Chicago. Et donc, après cette découverte du premier album des Ramones, il achète des instruments, il s'intéresse à fond à la musique, et donc forcément, il en joue. Et en tant qu'étudiant, il s'y met encore plus parce qu'il s'ennuie beaucoup.
Mais il est étudiant, il n'étudie pas la musique.
Ça n'a rien à voir avec la musique. Non. C'est vraiment au moment de ses années étudiantes, entre le lycée et l'université.
Il a fac de lettres, donc comme tous les gens fac de lettres, il faut rien. Okay.
Voilà. Un bon L, quoi.
Exactement. Et il n'a pas une mention, et c'est très bien. Donc, il chante, il joue de la guitare, de la basse, de la batterie. En réalité, il sait quasiment tout faire tout seul. Et c'est pour ça qu'en fait, son premier groupe, qui s'appelle Big Black, naît de là et joue de tous les instruments, sauf le saxo qu'on peut entendre dans les albums. C'est le seul truc
sur le premier album. On peut pas lui en vouloir, il ne joue pas que d'un seul instrument, c'est pas si grave.
Voilà.
Mais attends, mais il était, alors j'ai une petite question, peut-être que tu n'as pas la réponse, mais du coup quand il était étudiant, il était tout seul? C'est-à-dire, il avait pas d'amis et tout ça? Parce que des fois le côté geek et le fait de s'impliquer autant, c'est que t'as aussi une sensation d'être seul et tu te nourris de tout ce qui est là.
C'était le weirdo du coin qui était attiré par les autres weirdos, quoi.
Ouais. Donc il a sympathisé en fait avec des potes qu'il a trouvé sur la route de ses études.
Oui, donc ça l'a nourri aussi, sûrement. D'accord.
Et donc c'est là en fait le groupe s'est fait comme ça.
Okay.
Et le but ici, c'est vraiment d'évoquer sa carrière au long cours, mais plus la partie enregistrement que la partie artiste où il a enregistré lui-même, même si on va revenir là tout de suite. Mais ce qui est assez drôle avec ce premier groupe qui est Big Black, c'est que c'est devenu par la suite une vraie influence avec un énorme album, c'est Songs About Fucking, avec une pochette...
Je ne connais absolument pas.
On y reviendra après. Des influences que ça a pu générer chez des artistes beaucoup plus connus. Et il y a une phrase qui résume tout, c'est qui donne déjà une bonne idée du personnage et de sa position vis-à-vis de l'industrie de la musique. C'est ils bookaient leur propre tournée, ils n'ont jamais signé de contrat, ils n'ont jamais eu de manager, n'ont jamais voulu ni même considérer signer avec un label ou une major. Et ils ont cassé le groupe pile au moment où ça commençait à percer.
Moi, je n'aurais jamais été ami avec lui.
Je pense que j'aurais été compliqué.
J'aurais trouvé chiant. Oui, ça va, t'es punk, t'inquiète pas. Tu peux manger un kiri quand même, hein, t'inquiète pas.
Donc, il y a cette citation...
Ça s'appelle l'intégrité, monsieur.
Il y a cette citation qu'on
entend... Personne autour de cette table qui en a, donc...
Si, je crois qu'on l'a laissé à la porte du studio le premier jour.
Elle est déjà bien partie loin, t'inquiète pas, là, je vais vous abandonner. Hein.
Donc, pour citer l'un des membres du groupe, c'est le genre de musique que tu joues à fond quand tu veux casser ton bail et te faire virer de ton appart. Et pour remettre le contexte des années 80, de la musique indépendante, en tout cas à l'époque, aux États-Unis, il y a plusieurs schémas en fait. Donc il y a la première situation, tu signes dans un grand label, tu cartonnes à des échelles différentes et tu deviens soit REM, soit Sonic Youth. Tu signes dans un label, mais tu n'exploses pas, donc ça c'est la deuxième situation, The Replacement ou Oscar Duo. Troisième situation, tu signes nulle part et tu restes volontairement indé et c'est par choix ou alors bon, t'es juste pas très
déception.
Très bon pour te faire
zéro déception pour Albini. Il a jamais un seul instant regretté la décision de pas avoir signé sur
c'était une volonté.
Ah ouais, oui,
non, mais il a été constant, donc c'est voilà. Oui, c'est un choix qui est quand même Enfin, tu peux le comprendre quand t'es jeune, quand t'es étudiant. Bon, voilà, on a tous une période de rébellion, etc. Mais c'était en fait au-delà d'une rébellion. Apparemment, c'était juste un état d'esprit logique
oui,
pour lui.
Il voulait garder le total contrôle sur sa musique et ce qu'il voulait dire de sa musique. Ce
il voulait pas être faire. Perverti par l'éventuelle réussite ou en tout cas succès financier.
Et la partie commerciale, je dirais gestion de projet de la musique
c'est
aussi,
surtout ça, ouais.
Qui est d'avoir des gens qui ne font pas d'art ou de musique
et
au sens premier
et qui te disent qui pourrait marcher.
Il faudrait que tu fasses plutôt comme ci parce qu'en fait en ce moment ça sonne plutôt comme ça et voilà donc tous les intermédiaires en fait au-delà des artistes qui sont censés produire la musique ou en tout cas la créer ils voulaient s'en débarrasser.
Ok.
Et donc dans cette partie des débuts Nicolas, est-ce que tu peux nous évoquer les deux autres groupes qui l'occupent dans la foulée, c'est-à-dire Rape Man et le plus connu de tous pour ceux qui s'intéressent de près à Steve Albini qui est Shellac.
Alors ouais, Rape Man, du coup, déjà rien que le nom, c'est tu te tires une balle dans le pied et c'est un suicide commercial instantané. C'est de l'humour d'Edgelord ultra provocateur.
Juste pour préciser, le nom est issu d'un manga japonais de base.
Ouais, c'est ça, ouais.
Et en français, ça veut dire
le violeur.
Oui.
Même pas, c'est genre l'homme viol, quoi. C'est genre comme un super-héros du viol, quoi. C'est vraiment ultra, ultra provoque, quoi. Mais ils ont pas sorti grand-chose, vraiment. Et c'est le projet le plus, on va dire, violent, noise et incisif, on va dire, d'Albini, c'est vraiment l'arsène par-ci, l'arsène par-là, très âpre. Avec le temps, c'est devenu pour beaucoup un de leurs projets et un de leurs sons Albini préférés. Mais c'est vraiment le plus.
Jusqu'au boutiste.
Ouais,
extrémiste.
Voilà, c'est vraiment le plus, on va dire, underground et.
Non mais c'est écoutable quand même.
C'est ouais, c'est totalement écoutable.
Hein, par une personne normale, pas par toi.
Non, vraiment, c'est noise, mais c'est pas c'est écoutable. Hein, c'est pas non plus ultra expérimental, mais c'est plutôt le son qui est vraiment très métallique, très voilà quoi. C'est faut aimer.
C'est brut.
Il y a pas plus brut que ça.
Agressif.
Et ouais. Et Shellac pour le coup, son projet le plus ambitieux et connu, on va dire. C'est le classic shit sur classic shit. C'est vraiment l'influence de Shellac sur toute la musique alternative, le punk, le post-hardcore, encore jusqu'à maintenant, dans la guitare, la basse, le son de la batterie, qui est c'est sec comme un coup de trick. C'est vraiment paf, c'est genre t'as pas le choix quoi. T'es agressé d'emblée. T'écoutes une seconde un Albini qui chope sa guitare. Tu sais que c'est Shellac. Le côté traînant des longs morceaux, le répétitif de la chose. Enfin, c'est envoûtant ce groupe. C'est vraiment. Enfin, perso, c'est un de mes groupes préférés. Je conseille les deux premiers albums. Et quand on écoute avec le recul maintenant, on se dit oh, putain, mais c'est dingue à quel point tu peux entendre. Tout après les années 90 et jusqu'à maintenant, le son Shellac un peu éparpillé. Et la voix, les thématiques, vraiment énorme influence quoi.
Et pour ceux du coup qui sont étrangers à Shellac, hein, j'en fais un peu partie, j'avoue, j'ai dû en entendre quelques fois et j'ai pas spécialement accroché quand j'ai entendu, du coup j'ai pas poussé l'exercice. Donc c'est quand même un groupe qui a 30 ans de carrière et qui a 6 disques, et donc le dernier, je me répète, mais c'est sorti très récemment,
c'est très Albini d'attendre presque 20 ans pour sortir un nouvel album que tout le monde attend et de crever
juste avant,
quelques jours. C'est l'ironie de la chose lui ressemble bien, je trouve.
Mais c'est aussi un groupe, encore une fois, pour donner un peu plus de contexte, quelque chose qui a vraiment pris du temps pour acquérir ce statut d'incontournable, de l'indé. Et qui avait tout le temps sa place habituelle à Primavera, par exemple, qui joue au festival, comme l'équivalent de Dinosaur Junior, par exemple, qui est peut-être un peu plus connu. Mais on avait ce statut-là de patron d'une certaine scène, et d'une évidence à ne pas rater, en fait.
Et qui refusait de jouer le jeu de la tournée, par exemple. L'album sortait, il y n'y avait pas nécessairement de tournée qui suivait l'album.
C'était à leur rythme. De là.
C'était à leur rythme, quand ils le décidaient, quand ils le voulaient, et voilà.
Et ça pouvait être n'importe où, parce que comprendre qu'ils jouaient pas mal en France.
Ouais, ça sortait d'une part. T'avais des dates de chez Like, fallait se précipiter, parce que c'était sold out en 2-2 dans des petites salles, et tu pouvais pas savoir quand, quoi. J'ai toujours adoré le...
Putain, ça devait être des concerts que de gens très très spécialisés dans la musique. T'arrives, tu dis, ah, yo, j'aime bien, tu sais, quand tu fais ça, j'ai l'impression que je pète dans un bidet. Là,
tout le monde se dit bonjour, en fait, tout le monde se connaît. Mais je vérifiais en même temps que l'enregistrement, mais en plus, il faut avouer que c'est un groupe qui trompe les pistes, hein, parce qu'il y a un homonyme. Donc, il y a un autre groupe qui s'appelle Shellac et
non,
récemment.
Non, c'est pas pareil.
Oui, ne vous trompez pas sur l'orthographe. Il n'a pas eu de période disco, en tout cas, pas à notre connaissance.
Ah non, il détestait la disco, Albini.
Ça m'étonne pas.
Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'il détestait de manière générale.
Donc, mais quand on est dans les détails, on ne sait pas. Voilà.
Donc là, c'est vraiment sa partie musicien, hein, et ce qu'il a
guitariste.
Ce qu'il a enregistré lui-même derrière sa guitare et derrière le micro, principalement. Même si on l'a dit, il était touche à tout. Là, l'idée, c'est plus d'aller sur le son qui le caractérise. Ce qui est un vrai son Steve Albini. Donc on parle de basse en avant, hein, on a parlé sur Shellac. Des guitares très, très marquante, très tranchante.
Ça, ouais, c'est exactement ça, c'est tranchant. Quoi. C'est, t'as l'impression que tu vas te faire couper par le son de la guitare. Ouais. Je sais pas comment expliquer, mais...
Qui ressort très très fort dans le mix, quoi. Et la voix aussi, qui est pour le coup, à l'inverse, assez en retrait, en général. Et ça pourrait sonner anecdotique quand on le dit, mais il n'y a pas plus criard que cette manière de décrire la musique Albini, c'est le son live.
Ah bah,
essayer de se rapprocher un maximum de live et de faire en sorte en fait qu'il n'y ait absolument aucun enrobage autour du groupe, d'avoir quelque chose de très minimaliste, vraiment l'idée d'avoir des mecs ou des meufs dans une pièce et on y met des micros et après ça sort, quoi. Donc dans ces techniques, globalement il se plie aux envies des groupes avec lesquels il travaille. Il préfère avoir le moins de prises possible, un enregistrement en analogique, sur cassette. Et une fois qu'il
100% analogique, Albini, ouais. Je sais pas le reste.
Mais aussi le fait de, une fois qu'ils se sont calés sur un son, de ne plus jamais donner d'influence, de plus donner de retour, de plus dire ouais, tu devrais la jouer peut-être un peu plus comme ci, un peu plus comme ça, etc.
Ah, c'était fait.
C'était une fois que les mecs ou les meufs sonnaient à peu près comme ils s'étaient tous dit qu'ils voulaient sonner, ils disaient plus rien. Il appuyait sur le bouton et c'était parti, quoi.
Il y en a qui devaient péter les plombs.
Ouais, et en fait, il y a aussi une caractéristique qui est récurrente, c'est le très peu de temps d'enregistrement. Donc, entre 5 et 15 jours en général, pas de chichi, comme je disais, pas d'enrobage et pas de temps comme ça à réfléchir s'il faut refaire les guitares, le machin, le truc. C'est pas comme ça que ça marchait pour lui.
Et j'aimerais bien notre ta gueule, c'est moche, mais ce sera comme ça, c'est tout. Hein, voilà. Allez,
c'est ça.
Dégage, merci. Voilà.
Et en fait, je voulais revenir sur peut-être son travail le plus connu, le plus évident, le plus vendu aussi. C'est In Utero.
Ah bah.
Parce que ça va nous faire après la culbute sur son approche et sur vraiment la personnalité
ouais, c'est...
du mec.
Tout est concentré un peu dans cet album finalement. Son éthique, sa vision de la musique, des instruments, enfin ouais, tout est...
Et le décalage qu'il peut y avoir entre Nevermind et In Utero aussi.
Ah ouais, bah personnellement, In Utero, meilleur album de Nirvana.
Carrément.
Et c'est...
C'est pas pour faire le mec en plus, parce que vraiment, me souviens très bien de découvrir Nirvana par ma sœur qui est un peu plus âgée que moi, à la sortie des albums, et de me dire, bah forcément, t'es attiré, si t'aimes le rock quand t'es gamin, par Nevermind, parce que c'est hyper cool et tout, mais directement, In Utero me marquait plus... dans la totalité. Après, ça veut peut-être dire que je suis perturbé. Hein.
Oh, tu sais, t'as pas juste besoin de ça. Hein. On sait hein, que t'es perturbé.
Bah, déjà, on fait ce podcast à trois.
Il y a bien une raison. Hein,
c'est sûr.
Pardon.
Est-ce que vous savez comment l'histoire a commencé entre Nirvana et Steve Albini?
Ils sont cassés la gueule.
Non.
Il était pote avec Kim Deal, Albini, c'est peut-être comme ça qu'il a...
Alors, Kurt Cobain est un gros fan des Pixies, oui, il citait beaucoup Frank Black et les Pixies comme étant l'influence principale, comme quoi ça avait donné Nirvana et me donné aussi. Mais non, encore autre chose. En fait, l'anecdote, c'est que visiblement, C'est comme ça que Steve Albini le raconte, en tout cas.
Tu fais du sacré teasing. Non, mais je te laisse féliciter parce que vraiment, là, les gens attendent. Et ce que j'aimerais dire, c'est que quand on attend, c'est pénible d'avoir des gens qui parlent, tu vois. Et donc, du coup, je suis pénible.
Et en fait, il s'avère qu'au studio de Steve Albini, enfin, là où ils enregistrent, là où il a enregistré, où il avait l'habitude d'enregistrer, il recevait des appels d'un mec bourré, assez régulièrement, qui lui parlait, en fait, de Big Black, donc de son premier groupe, et voilà, des capacités du groupe, de comment il avait enregistré tel ou tel truc, etc. Et après coup, il s'est rendu compte que c'était Kurt Cobain. Et donc Kurt Cobain...
Mais quel enfer en plus. Non mais ta gueule. Hein, Big Black, Big Black.
Kurt Cobain, l'après Nevermind quoi. Donc on est quand même sur le plus gros groupe du monde, avec des millions et des millions d'albums, voilà, dans les bouches de tout le monde. Et voilà, donc c'est comme ça que ça a commencé. Et donc, bah, ils ont bossé ensemble. Ils sont allés se caler au Minnesota dans un tout petit studio où ils ont essayé de faire ça dans un temps réduit, comme le voulait Albini et comme eux le voulaient aussi, pour pouvoir un peu descendre en pression de ce mastodonte qui était sorti avec Nevermind. Et en fait, dans la relation, Albini a sorti une lettre de 4 pages qui est ressortie sur les réseaux.
Je conseille vraiment à tout le monde de lire cette lettre.
Et on pourra y revenir, mais c'est vrai que elle résume totalement le personnage. Bon, on va revenir juste après, mais juste pour boucler sur In Utero, en fait, lui, quand il a commencé à bosser avec Nirvana, il les avait aussi prévenus sur toute la couche de l'industrie musicale et sur le label, parce que le label, c'était Geffen Records, donc avec David Geffen à la tête, donc un monsieur entertainment des États-Unis, qui, selon Albini, allait interférer à un moment ou à un autre, que ce soit le label ou que ce soit lui. Hein. Et en fait, c'est arrivé. Donc, une fois que le mix final de In Utero est arrivé dans les mains du label, ils se sont dit, en fait, c'est beaucoup trop âpre, beaucoup trop énervé, beaucoup trop différent de Nevermind, et il va falloir, en fait, radoucir certains morceaux, voire la totalité, pour que ça passe auprès du grand public. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment, à force d'insistance, il y a eu un compromis, et donc les morceaux Earthshock Box et All Apologies, ils ont été retravaillés pour pouvoir avoir quelque chose de plus doux et de plus commercial. Exactement, pour pouvoir passer en radio.
Je ne savais pas.
Donc à ce moment-là, je l'ai découvert aussi en préparant, et à ce moment-là, donc Albini, lui, estime que ces morceaux ont été défigurés. Je vous avoue que moi, j'ai fait l'exercice aujourd'hui d'écouter ces morceaux de manière non retouchée. Et dans mon souvenir, j'ai pas fait l'exercice de faire la version A et la version B.
Les morceaux non touchés.
Ouais, okay. Sur les plateformes de streaming, où je pense dans un packaging d'une version collector à X milliers d'euros de In Utero, en fait, vous avez la version deluxe. Et donc, il y a des mix 2013, il y a des mix je sais pas quoi, et il y a vraiment ce qui s'appelle le Albini Mix.
Le seul et unique. Voilà. Il faut écouter.
Donc, l'Albini Mix, moi, par rapport aux souvenirs que j'ai, des morceaux qu'on a eu à l'époque et encore jusqu'à aujourd'hui de All Apologies et Hot Chat Box, j'ai pas vu la différence. Peut-être c'était un peu plus agressif, abrupt, mais pour le coup ça m'a pas perturbé.
Il y en a qu'un des trois là qui peut nous faire chier sur ce genre de son.
Ding dong.
C'est sûrement pas moi.
C'est ça. Après on n'a pas l'oreille nécessaire.
Bah voilà, bande de ragardoses.
Donc juste pour info, hein, donc selon Albini, les trois membres de Nirvana, il a absolument rien à leur reprocher. Il n'est pas sorti fâché de cette expérience. Il dit par contre, toutes les autres personnes qui ont travaillé avec eux, c'était des sacs à merde manipulateurs qui ont essayé de les pressuriser, de faire de lui, donc Steve Albini, un bouc émissaire et d'essayer de mettre de la merde autour de ce superbe album qu'ils étaient en train de faire.
La drogue, ça, c'est mal quand même. Non, mais soyons francs. Tu peux le sentir et tu peux être d'accord avec cette idée.
Oui.
Bon, par contre, de le vivre à ce niveau-là, il y a quand même un petit problème de sensibilité. Tu n'es pas juste sensible. Il y a quelque chose qui ajoute un petit peu à cette sensibilité.
Je pense
à cette époque-là, attention.
Il est brut de décoffrage.
C'était il y a longtemps, hein, donc il était jeune.
Et donc, après coup, en fait, il a quand même eu un après In Utero qu'on n'attend pas forcément. C'est-à-dire qu'il a eu un peu moins de boulot. Parce que il y a des plus petits groupes avec qui il avait l'habitude de travailler qui se sont dit qu'en fait Albini était devenu trop gros pour eux.
Ah ouais, puis ils l'ont lâché du coup, imaginons ça.
Et à l'inverse, il y a des groupes qui signait avec des majors, donc des labels comme Universal, merde. Comme Sony, etc.
Personne,
et qui se disait, en fait, non, on va pas bosser avec lui parce qu'en fait, il va nous faire partir dans une direction où, en fait, derrière, on sera plus vendable ou assez commerciaux pour pouvoir continuer à faire de l'argent. Donc.
Attends, mais alors, je suis désolé, mais les petits groupes, ils sont cons. Enfin, ils peuvent poser la question. Tu vois ce que je veux dire ? À un moment, tu dis juste, excuse-moi, est-ce qu'il dit oui ou il dit non ?
Ouais, mais après, tu vois, on est dans une ère pré-internet où il faut envoyer des courriers, etc. Peux juste te sentir pas à ta place. T'es pas un DM Instagram.
T'es loin,
de
tu vas dire, bon, bah voilà.
Et donc, selon ce bon vieux Steve, toujours, pour lui, ça a été une conséquence directe. Des labels qui, du coup, lui ont reproché de rendre Nirvana moche, ou en tout cas plus difficile d'écoute. Et d'ailleurs, il a su que Jimmy Iovine, hein, donc un grand nom de l'histoire de la musique côté industrie, avait dit à Nirvana à l'époque, vous avez fait un vrai pari en prenant Albini, quoi. C'est pas quelque chose de gratuit, et c'est tamponné sur vous, quoi. Donc tout ça pour dire quoi, c'est que l'après In Utero, c'est un truc qui est très très marquant dans sa carrière, et ça a justement vraiment impacté sa capacité d'être avec tout le monde, avec tous les styles, et de se positionner aussi sur le fait qu'à partir du moment où tu payes tes factures, il n'y aura aucun problème pour travailler avec Steve Albini.
Il appliquait le même tarot pour tout le monde, très 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 abordable. Ce qui a permis à plein de, entre guillemets, petits groupes qui n'avaient pas forcément la blinde de thunes à foutre dans un studio et un enregistrement, de se permettre de pouvoir se payer Albini. Et une fois que la transaction était faite, hop, on passe au prochain groupe. Zéro différence entre... forcément, quand t'es attiré par Albini, tu veux un peu une patte indie, alternatif. T'as quand même une identification guitare, batterie et tout ça très forte. Mais zéro refus. Son boulot, c'était vraiment d'enregistrer le groupe au plus proche de ce que le groupe peut être en live dans un setting comme ça. Et c'est ce qu'il a fait toute sa carrière.
Et toute sa carrière, il était accessible par mail ou par téléphone. Ouais. Ses infos étaient trouvables en ligne. Et c'est lui qui répondait au téléphone de son studio, la plupart du temps, j'imagine. Et d'ailleurs, c'est la suite de son histoire. C'est qu'en fait, il construit un studio qui s'appelle Electrical Audio à Chicago en 95. Et je vous conseille vraiment une chose, c'est d'aller revoir l'épisode qui se passe à Chicago de la série Sonic Highways. Donc Sonic Highways, ça a été fait par Dave Grohl autour de l'album des Foo Fighters qui porte le même nom. Et en fait, c'est une série documentaire sur chaque ville.
Pour une fois qu'on s'entend, c'est un groupe.
Mais là, pour le coup, c'est intéressant. Bon, après, il y a toute la couche très marketeuse de Dave Grohl.
Il peut pas s'en empêcher.
Tout est incroyable, tout est génial et tout est never seen before. Mais par contre, il y a des anecdotes intéressantes. T'as vraiment accès aux intervenants et tout ça. Donc il va voir Albini, ils vont enregistrer un des morceaux de l'album dans son studio, et en fait il fait vraiment une visite du proprio de son studio. Il dit qu'il a racheté le bâtiment à telle boîte en 95. En fait, ils ont vraiment passé des années à façonner le studio comme lui en avait envie, avec des murs en briques qui ont été rajoutés pour l'acoustique des pièces où ils enregistraient. Il y a des systèmes même d'acoustique où ils ont séparé le sol des murs pour avoir un son différent. Enfin, on est vraiment sur un travail d'ingénieur du son pour le coup, et de réflexion. Qui est hyper intéressant, et c'est un studio qui l'a mis à sec financièrement plusieurs fois.
Parce que attends, on t'a pas dit la meilleure, c'est qu'Albini refusait de toucher la moindre royalty sur les albums.
Les royalties,
qui est hallucinant. C'est le seul.
Il est payé une fois et c'est tout.
Voilà. Exactement. C'est le
après,
seul.
Ça lui appartient plus et plus de. Voilà.
Et en fait, il a raison, parce que quand tu réfléchis. La musique appartient au groupe, c'est leur compo, c'est leur songwriting, c'est leur... lui, il, entre guillemets, il les enregistrait live, quoi.
C'est pour ça qu'il disait ingénieur et pas producteur, parce que producteur, tu participes, là, ingénieur, c'est juste enregistrer, tu veux faire en sorte que ça soit leur son.
Albini, par exemple.
Mais ce qui est drôle, en fait, c'est qu'il se compare à un plombier. C'est-à-dire que si demain, tu visites...
Ouais, il s'arrête du cul.
Exactement. Il ne portait pas de ceinture.
Non, la comparaison, elle est liée au fait que quand tu visites une baraque, tu ne dis pas genre, et eh, voilà, et grâce à ce magnifique lavabo installé par machin, la maison tient encore debout. Tout le monde s'en fout. En fait, c'est un travail d'artisan. Non,
tu
vas avoir de belles, très belles maisons. Donc, pour.
Oui, ça n'existe que dans ce genre d'endroit.
Mais c'est un vrai. C'est un vrai pari financier aussi, parce que ce système de royalties...
Bah, ils ne vivaient pas pour l'argent. Enfin, non. Soyons clairs, ils ne vivaient absolument... L'argent, c'était même le démon, à la limite.
Ouais, mais clairement, parce que, en fait, pour donner des chiffres, vraiment, normalement, le système des royalties, il est appliqué à tous les producteurs à partir d'un certain statut, je pense. Hein, mais en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne dans le milieu. Et c'est entre, normalement, 3 et 5%. Sur la vente d'un disque.
Imagine juste
donc,
In Utero.
Juste, j'avais juste fait, In Utero. J'ai fait l'exercice. In Utero, c'est 15 millions de ventes revendiquées. Si tu touches 3 à 5% sur un disque, allez, on va dire vendu à 10 balles en moyenne sur ces années d'existence où le physique était bien, bien important, 3% de com, donc le plus bas, ça fait 4,5 millions de dollars. Donc il n'aurait peut-être pas eu à vendre du matériel pour continuer d'équiper son studio.
Mais il se serait senti voleur.
Et puis il n'aurait pas eu la même suite de carrière, puis le même personnage. Voilà, il se serait complètement raconté différemment.
Il était droit dans ses bottes. Dans ce qu'il disait, il l'appliquait, en fait. Il pourchassait l'hypocrisie et tout ce qui n'allait pas dans les labels et dans l'industrie de la musique. Il leur passait sa vie à leur chier à la gueule. Mais ça se traduisait par des actes concrets, quoi. Ouais. C'est un anti-Rick Rubin, un peu. Et c'est ça que j'aime bien. C'était l'anti-gourou un peu sectaire qui est tout en haut d'une colline et qui te donne des leçons de bien-être et de développement personnel.
Ça, c'est parce que... Et qui ne dure qu'un temps. Parce que tous les gros producteurs ont une grosse présence, mais au bout d'un moment, ils n'étaient plus à la mode aussi. Enfin, je veux dire, le son changeait. Alors que lui, il n'était pas à la mode de base. Donc, tu vois ce que je veux dire.
Ouais, mais bon, qui n'a jamais bu sa tequila avec vue en direct de Shangri-La de chez Rick Rubin. Je veux dire, c'est quand même appréciable.
Oui,
alors que dans la cave avec les murs en briques de Steve Albini...
Il fait humide. Une souris qui vient de bouffer le cul, merci. Excusez-moi, c'est un peu vulgaire, je sais, mais il y avait beaucoup de souris.
J'aurais préféré qu'il prenne les royalties.
Ça aurait été mieux pour lui, évidemment, mais c'était pas son principe. On a bien compris qu'il était intègre, voilà.
C'est ça.
Intègre et intégriste, quand même, parce que il y avait quand même.
Mais il faut l'être dans la musique. Quand t'as des requins en face de toi, comme qu'on peut trouver dans l'industrie de la musique, c'est.
Je pense qu'il y a plein d'autres possibilités, mais après, je ne fais pas ce métier et je ne suis pas américain encore. Donc...
Après, ça va avec tout le personnage, parce qu'on parle de Chicago, c'est une ville qu'il n'a absolument pas quittée à partir du moment où il s'y est installé pour ses études de journalisme en université. Hein. Donc, on est quand même sur quelqu'un qui, de base, est très fidèle à la fois une ville, à ses principes, et
une certaine vision de la musique. Chicago à cette époque-là, bon.
Bien sûr, c'est toute la scène punk aussi qu'on n'évoquera pas, parce qu'encore une fois, dans le documentaire, la Sonic Highways sur Chicago, vous pouvez voir en fait la totalité des groupes de l'époque qui gravitent autour. Et notamment, ce qui est intéressant aussi, c'est le positionnement des salles de concert et des groupes vis-à-vis de la jeunesse. Où tu te retrouves avec des gamins qui peuvent aller au concert parce qu'ils ont bien précisé que le concert il était all ages. Faut savoir qu'aux États-Unis, t'as plein de concerts où il faut être majeur ou alors 18+ pour pouvoir rentrer. Et eux, ils faisaient exprès des concerts pour les gens qui avaient moins de 18 ans. Et du coup, tu pouvais te retrouver à 10, 11, 12 ans sur scène à gueuler dans un micro. Donc il y a aussi toute une posture vis-à-vis de tout ça qui est très rigolote et qui est du coup pas une posture en plus.
Et qui est vachement importante.
Et c'est pour ça qu'Albini est vénéré aussi, pas seulement dans les cercles indie alternatifs, mais dans le punk et dans le hardcore le plus brutal, on va dire. Ouais. Parce que il a décloisonné un peu ce truc sectaire des genres et tout ça.
Il a ouvert l'art à tout le monde.
Ouais, voilà, c'est ça.
En gros.
Et donc là, on rentre vraiment dans l'approche, dans les anecdotes qui vont avec le bonhomme. Ce qui est assez drôle aussi, c'est qu'on parle d'un homme assez unique, d'un père alcoolique qui ne boit pas, il ne prend pas de drogue et il est athée. Donc bon, après, ça reste du déclaratif, on n'est pas allé vérifier, et on ne pourra plus.
Autre c'est fort probable, je n'aurais pas imaginé, mais c'est fort probable.
Et autre registre, mais il n'est pas fan de films, et il avoue regarder uniquement des vidéos de chats sur YouTube. Très drôle quand même pour quelqu'un qui est marié à une réalisatrice. Donc sa femme, Edwina, c'est la femme avec...
de vrais problèmes psychologiques. Non, mais non, en vrai...
Après, il fallait démêler le
vrai
la
du faux,
vanne, le
sûr.
Troll un peu.
C'est comme ça qui se raconte, encore une fois, on n'est pas allé vérifier, on ne pourra pas. Mais c'est assez drôle, en fait, tout personnage, quand tu commences à essayer de décortiquer le truc, essayer de comprendre, c'est marrant le nombre d'anecdotes qui tournent autour de ce monsieur. Et donc sa femme, donc je disais Everwina, qui a vraiment été là pour, je dirais, remettre l'église au milieu du village, et lui faire comprendre l'influence qu'il avait, le respect qu'il inspirait, et parfois prendre un peu de recul sur ses prises de parole et les conneries qu'il pouvait dire. Et donc
les ennemis qu'il a pu se faire sans, juste en étant un peu.
C'est un troll, quoi.
Quand c'est un mec que t'aimes bien, c'était pas grave. Quand même, on peut pas lui en vouloir. Par contre, quand tu l'aimes pas, le mec fait la même chose, tu le massacres. C'est quand même une prise de position, je trouve, assez peu équilibrée.
J'aime bien les trous du cul. Mais les trous du cul attachants et gentils.
Non, mais en fait, ça...
Mais vraiment, je crois que je ne me serais pas entendu avec. Par contre, c'est toutes les personnes, j'ai vu, excuse-moi, je fais une digression, toutes les lettres ouvertes après son décès, les Français qui parlaient de lui comme un ami, il y a eu des tourneurs, etc. Attention, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais toutes les lettres étaient magnifiques. C'est-à-dire qu'il avait l'air vraiment... très humain dans sa discussion, jusqu'au boutiste dans une discussion, c'est-à-dire qu'il va te parler, il va pas t'envoyer chier. Enfin bon, je suppose qu'il a quand même très envie de t'imposer son idée. Mais il parlait, apparemment, ouais. C'était quelqu'un qui était très ouvert donc, sur l'art, effectivement, et la possibilité d'en faire même si tu ne sais pas en faire. C'est-à-dire après, de ne pas interdire parce que tu n'es pas bon, tu n'as pas le droit, après, non, si, tu peux le faire.
Après, concrètement, c'est un mec, je pense, tu ne lui feras pas faire ce qu'il n'a pas envie de faire. C'est juste ça. Il a des principes, des valeurs, une vision de la musique qui font que si tu attends de lui qu'il fasse ça et que lui, ce n'est pas ça qu'il a envie de faire, bah, tu n'y arriveras pas. Donc, il peut paraître comme étant obtus, borné, mais au moins, il sait ce qu'il veut. Donc,
Et puis, le nombre de groupes avec qui il a collaboré sur des décennies... Ça veut quand même dire que groupes qui...
Je parle juste d'étapes psychologiques et puis d'une enfance qui a dû être quand même particulière. Voilà, c'est tout.
Ouais, tu faisais juste chier, mais... mais donc ouais, ce qui est assez drôle, c'est qu'il a fait des études en journalisme et quand tu mixes ça avec une envie de jamais fermer ta gueule, ça donne un certain sens de la
punchline. C'est pour ça qu'il n'a pas été journaliste.
C'est ça, il aurait eu du mal à travailler, je pense.
Ça doit être intéressant de voir ses exercices.
Il a écrit un putain d'article sur l'industrie de la musique, en gros, je ne sais plus le nom... Mais il est tout le temps cité.
Ouais, mais ce qui est très intéressant, c'est de voir ce qu'ils ont en cours. Quand les profs le reçoivent, ils disent aïe. C'est très bien écrit, mais il va falloir lui dire que c'est de la merde.
Ça donne de l'espoir aux gens comme moi, ok, les peut mieux faire et les perturbateurs.
Pour quelqu'un qui est anti-système, je pense que l'école n'a pas dû lui réussir souvent. Mais alors, du coup, il s'est fait aussi connaître pour faire des attaques. Dirigé envers des groupes spécifiquement.
Donc, il a insulté des groupes.
Oui.
Enfin, gros.
Ah oui, clairement. Ah, donc, oui, les Smashing Pumpkins qui étaient complètement insignifiants. Herge Overkill qui sont des branleurs en costume qui jouent du rock à papa. Tool, dont il a parlé dans un Ask Me Anything sur Reddit. C'est la musique que j'ai pu entendre d'eux est catégoriquement horrible. Bien que c'était censé être, j'imagine, de la musique que j'aurais pu aimer. Quand ils ont émergé, ils avaient l'air d'être un groupe fabriqué de quelques parties d'une musique indus qui essaie du coup d'exploiter le public qui est d'une certaine scène un peu plus abstraite du métal. Donc ça, ce n'est qu'une partie de la côte, parce que c'est tout un message hein, où il les défonce en disant que la première fois qu'il a vu l'un de leurs clips en stop motion, c'était l'un des trucs les plus drôles qu'il avait vu. Donc il trash en plus l'un des clips qu'il considère comme l'un des meilleurs du groupe. Donc vraiment, il y va comme un bourrin. Okay. Et c'est pas
nouveau. Bien que les petits fassent de l'art. Par contre, une fois qu'ils sont plus petits, il faut quand même les assassiner, quoi. C'est-à-dire tout le monde a le droit de faire de l'art, mais pas tout le monde. Un double discours, je l'entends.
Et il était très drôle.
Ouais, il est très paradoxal.
Il savait faire mal, quoi. Il y avait un sens de la répartie et de...
Journaliste.
Et après, t'as des histoires mignonnes, notamment t'as James Murphy de LCD Sound System, qui lui avait écrit quand il était encore assez jeune. Et qui lui demandait en fait comment.
Tu penses quoi de moi ? Ta gueule. Enchanté.
Qui lui demande en fait comment on fait un studio. Genre, clairement, c'était une question candide de ce genre-là, quoi. Et en fait, Albini lui a répondu avec. et c'est la fin de l'histoire. Il lui a répondu avec des schémas. Avec des schémas techniques, avec des variations et tout, pour dire, ok, bah, en fait, si tu dois faire un studio, respecte ci, respecte ça, l'acoustique, ça fonctionne comme ça, assure-toi d'avoir des pièces qui renvoient le son de telle manière et tout. Vraiment, il lui a répondu comme ça. En fait,
et tu reviendras quand on aura fait un bon album. Ah bah, ça se termine quand même.
Oh, il devait sûrement y avoir une petite punchline dans le lot. Mais en tout cas, James Murphy, c'est toujours dans ce fameux doc des Foo Fighters. Là, il en parle comme ça en se disant. Et il y a une autre quote qui est assez marrante de sa part qui dit alors, il fait des super albums, mais alors je ne sais pas comment. Donc, voilà, ça c'était pour les trucs plus ou moins mignons. Après, bien sûr, il a quelques casseroles liées à son sens de l'humour ironique, acide, et pour le fait aussi qu'il a beaucoup écrit à une période.
Beaucoup trollé.
Beaucoup trollé, donc il y a des phrases qui vieillissent plus ou moins mal.
Tu disais que c'était un hater avant l'heure ?
Ouais, vraiment, c'est un vrai tweetos, quoi. Et il s'est excusé du nom Rape Man, par exemple, vraiment publiquement. Et après, bon, forcément, il a, comme je le disais, des phrases qui pouvaient... vieillir mal. Après, tous les gens qui ont travaillé avec lui...
C'est poli.
Notamment Kim Deal des Pixies, qui a déclaré, quand elle voyait certaines de ses déclarations à l'écrit, elle se disait « Mais qu'est-ce qu'il fout ?» Et après, toujours dans ce même article du Guardian, qui m'a pas mal inspiré pour la préparation du podcast, lui disait, mais en fait, donc à l'auteur du portrait, lui disait, en fait, je suis ému aux larmes quand je pense à l'évolution qu'il a eue en tant que personne avec les années, à quel point il pouvait être peut-être obtus, voire extrême en début de carrière, versus ce qu'il est devenu avec les années en vieillissant. Et récemment, il avait dit, la vie est dure pour tout le monde et il n'y a pas d'excuse pour que je la rende encore plus difficile. J'ai le boulot le plus facile de la Terre, je suis un homme blanc hétéro, que j'aille me faire foutre si je n'arrive pas à aider quelqu'un d'autre. Bref, même les casseroles, il arrive à les faire sonner.
Oh là là !
Oh là 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 !
Il est bon, hein, il est bon.
Et vous me retrouvez sur France Inter à la rentrée prochaine.
Il remplace Guillaume Meurice.
Vous êtes deux journalistes pourris, quand même. Je tenais à vous dire, je vous aime, mais vraiment, vous êtes des merdes.
C'est ça le bénévolat, hein. Tu prends ce que tu peux. Voilà.
Ah oui, voilà, c'est un sous-couvert de bénévolat, et voilà.
Voilà. Je voulais arriver à la partie d'après, là, parce qu'on parle beaucoup de lui, mais on parle assez peu, au final, des artistes avec lesquels il a bossé, et du...
J'ai cru que tu voulais te parler de ses animaux domestiques.
Alors, il adore les chats, mais il en a plein, en plus. Non, je parle de, bah, du coup du testament, hein, qui lui reste. C'est les albums sur lesquels il a bossé. Il y en a eu une chier.
Ouais, impossible de tous les...
Impossible. Alors,
Papa
de tous
de Carlos.
Voilà.
Déjà, le chef-d'œuvre, la team.
Bah, Annie Cordy, c'est lui. Non, mais...
C'était lui, d'ailleurs, déguisé, mais c'était lui.
Et moi qui croyais qu'elle était belge. Donc, le nom qui ressort le plus souvent, c'est quoi pour vous ? À part Nirvana, qu'on a déjà cité, bien entendu.
Bah, les Pixies, voilà.
Et Pete Gervais. Et les Breeders, qui vont avec.
Pete Gervais, les Breeders.
Je sais pas ce qu'il y avait. Moi, je sais qu'il avait bossé avec un groupe que j'avais rencontré au Maroc qui s'appelle Lazy Wall, mais c'est... voilà.
Lazy Wall ?
Lazy Wall.
Mais c'est devenu une marque ?
Au secours. Non, mais par contre, j'ai pas les noms, effectivement. J'avoue qu'il y a des tonnes de trucs archi-connus, mais j'ai pas là.
Alors... Allez, on va vous en faire une petite série, là. Ah, il y a Slint, qui sont les ancêtres de Black Country New Road, pour ceux qui ne connaissent pas, et qui datent du début des années 90. Il y a Pete Jarvie avec l'album Read of Me, qui date de 93. Ouais. Qu'on peut appeler aussi Arid of Me, hein, puisque c'est un son très sec. Je me suis réécouté aujourd'hui.
Ah bah oui, c'est...
Putain, ça fait des montagnes russes. Un coup, t'entends rien, un coup, t'entends...
Ah, mais c'est ça qui est génial, parce
beaucoup.
Que quand ça pète, ça pète.
Alors, moi, j'adore Pete Jarvie, mais... Parfois, je suis un peu de l'avis de Elvis Costello qui a dit « It sounds like shit. This guy knows nothing about production. » Donc, vraiment, t'es tout le temps en train de jouer avec le son de l'appareil avec lequel tu joues l'album parce que ça bouge beaucoup. Il y a beaucoup, beaucoup de variations. Alors, In Utero, on en a parlé maintes fois, c'est 94. Il a produit aussi beaucoup de Jesus Lizard.
Pour moi, le top 3, t'as In Utero, t'as Surfer Rosa des Pixies, et t'as Goth, l'album Goth de Jesus Lizard, qui est... ces trois albums, pas vraiment similaires, mais dans la même catégorie à la guitare, mais qui ont un son et une ambiance vachement distincte, et qui ont influencé toute la scène rock et à guitare. C'est un truc de fou, quoi. Il a la patte sur les trois albums... trois des albums les plus importants de la musique alternative. C'est quand même dingue que ce soit un mec qui ait enregistré les trois, quoi. C'est fou.
Ouais, c'est assez dingue. Et après, il a cette capacité, du coup, à travailler avec tout le monde, on l'a déjà dit, mais de ce fait, t'as des choses que moi, j'ai découvertes en préparant le podcast, comme Dazzling Killmen avec l'album Facing Collapse, qui est vraiment, vraiment bien, mais inconnu au bataillon. Si t'es passé à côté, je pense que c'est assez normal, parce que je ne voyais pas la tête de Pierre qui fait des noms, je ne connais pas. Il devient muet.
Je ne connais pas.
T'as le post-rock de Mono, qui a quasiment enregistré tous ses albums. Ouais. T'as Don Caballero qui c'est
de 2000, American Don. Il y a aussi l'album de Bush, Razorblade Suitcase, qui les a fait exploser avec
C'était lui, okay.
Ouais, numéro 1 aux US. Il a fait cet album qui l'a remis sur le chemin de la santé financière, et la première fois qu'il a vraiment été recherché et engagé par quelqu'un, mais vraiment engagé, genre on veut lui, parce que Nirvana, comme je l'ai dit, c'est devenu d'une manière assez parallèle. Et vous savez pourquoi, enfin quel est le projet
non, je vois pas
dont je parle. C'est deux personnes quand même très très très
très
connues.
Jimmy Page et Robert Plant. Ouais.
Voilà, donc c'est l'album de leur retour. Ils se mettent à deux. Et ils ont fait un album en 98 qui s'appelle Walking into Clarksdale.
C'est vrai, c'est vrai.
Et qui est de ce fait le disque sur lequel il a pu se refaire la cerise financièrement. Et
où en fait, je ne sais pas cette expression non plus.
Il vient l'inventer.
Je dis là et pas les. Hein, c'est très important. En société, tu brilleras d'autant plus. Et après, t'as d'autres albums comme McCluskey par exemple.
Ah ouais.
McCluskey. Et c'est grâce à ça, c'est
le
grâce à cet album que McCluskey est devenu Égérie Colgate.
J'ai honte. Je suis désolé.
Il a fait Low aussi.
Il a fait
un album de Godspeed.
Ouais.
Enfin, le gars était...
Il a fait du John Spencer, Blues Explosion, du Shannon Wright, des Code Orange, Neurosis, Mogwai,
Neurosis,
Dirty Free.
Il a fait du Code Orange.
Ouais. Et il est un des plus récents, là.
Donc,
il faisait quand même des trucs qui étaient quand même... Bon. Un peu plus commerciaux.
Bah, il prend l'argent.
Il refusait... C'est pas vraiment... Tu payais son tarif... T'étais enregistré et basta, c'était au prochain, quoi.
Ok.
J'ai pas vu Patrick Sébastien dans la longue liste.
Mais c'était la même personne, on voit plus. Il a disparu depuis deux semaines, bon, c'est bizarre.
Ah, j'imagine le reveal incroyable. Le truc à la Mission Impossible, t'enlèves le masque et en fait.
C'est génial! Yeah, I love music. Wow.
Ah, le grand écart! Il est simple en plus! C'est le con! Donc,
Et un petit album pour vraiment montrer aussi la différence. Parce qu'on pense évidemment tout de suite guitare, âpre, nanana, mais il a aussi enregistré l'album YS de Joanna Newsom, qui est une beauté.
Je connais pas non plus.
C'est Joanna qui te fait chialer en chantant avec une harpe, quoi.
C'est chiant, quoi.
Ah non, c'est beau à te faire chialer. Mais t'as pas de cœur, je te l'ai déjà dit. Mais c'est tout, c'est...
Bah, c'est pas ça, c'est juste qu'on n'a pas les mêmes goûts.
Donc écoutez cet album pour vraiment voir la palette un peu sonore de
Attends, on fait de la harpe avec une palette.
Ça commence à faire beaucoup là, imaginez, il va falloir en mettre. Et moi je voulais aussi revenir sur deux albums plus récents sur lesquels il a travaillé, c'était en 2017 et c'est des noms qu'on a l'habitude de citer, que sont Ty Segall.
Ah bah oui,
dans un premier temps.
Il
a bossé sur l'album, enfin l'un des albums éponymes hein, de Ty Segall qui porte son nom, et il a fait aussi l'enregistrement du live qui s'appelle Deforming Lobes. Et c'est assez intéressant parce que c'était l'album juste avant que Ty Segall fasse le Freedom Band, donc avec la partie plus de jamais, avec des morceaux plus longs, et c'est un disque qui est assez cool parce que ça y va fort, vite, et tu gardes quand même la diversité de Ty Segall.
Il avait toujours pas perdu sa patte, le Metz.
Le Met Strange Peace en 2017.
Et aussi un groupe que j'adore, Screaming Females.
Ouais.
Et pour citer un album qui est pas vraiment récent, mais qui je sais même pas quelle année, mais Attack on Memory de Cloud Nothings.
Ah putain, c'est lui.
C'est lui.
Ah, ouais.
Qui est non seulement le meilleur album de Cloud Nothings, mais qui est un des meilleurs albums de cette décennie.
Ouais.
Qui, et le gars, ouais, il avait quand même encore le mojo, quoi.
Ouais, ouais, clairement. J'avais complètement oublié que c'était lui qui avait bossé là-dessus. Je voulais revenir aussi sur un truc rapido, c'est les groupes français qui ont pu travailler avec...
je savais, je l'attendais.
Avec Steve.
Ah, alors attends, là, il y a parce qu'il doit y avoir du dos.
Donc, il y en a un, c'est un énorme dos, ça va nous faire rire. Je pense, parce que c'est...
Bon, à couche, vas-y, là.
Bon, il y en a un, tu l'avais cité il n'y a pas longtemps, les Fugs, ouais, avec leur album Strike. Donc
oui,
la
ça va.
Signature Sub Pop, et il a travaillé avec eux. Il y a un truc très années 90, mais personnellement, je n'ai jamais écouté. C'est les Uncommon Man from Mars.
Avec, je ne savais pas qu'ils avaient fait un truc.
Kill the Fuse. Il y a un groupe que je ne connaissais pas qui s'appelle Sloy, dont il a fait les deux albums. Il y a un autre groupe qui s'appelle Chevreuil, dont il a fait les trois albums. Je ne sais pas si
comment
c'est
Chevreuil.
Chevreuil.
Comme ah, animal. Chevreuil. Non, mais c'est récent,
ouais.
Ça.
Ouais, c'est. En fait, il a beaucoup travaillé avec les Français. Donc, Uncommon, Sloy, Chevreuil. Le prochain que je vais citer, c'était au milieu des années 2000-2010.
Et sans ironie et en premier degré, cet album est trop cool.
De quel?
Celui que tu vas essayer de faire deviner.
Celui avec un chanteur qui était connu pour monter sur les publics, sur les scènes.
Tout est nul, mais cet album est vraiment trop bien.
Qui porte des costards avec un petit côté baroque, habillé en noir.
Un groupe français,
un
rock.
Groupe français,
vraiment,
un peu arty théâtral, qui a été connu aussi parce que derrière, lui, s'est mis avec une chanteuse qui est devenue très connue en France. Parce qu'elle participait à la Starac.
Le vide, est...
non,
qu'elle
vide était plutôt,
dans son regard.
Qu'elle était plutôt une
un
femme...
Avec un sexe immense. Non, moi j'ai d'autres renseignements, mais... Non, mais c'est qui? Vas-y, dis, accouche.
C'est Dionysos, avec l'album Westerns.
Attends, par contre, c'est que...
Regarde cette information.
Bon, Dionysos, ça va, enfin... c'est
lui.
Pas non plus...
Quand
je m'attendais à un truc horrible. Qu'on aime ou qu'on aime pas, ça reste un tube. C'est un très bon morceau.
Ah, mais du coup, c'est...
Moi, je m'en fous.
C'est assez drôle de savoir que ça a été enregistré par Albini.
Ah bah, je ne savais pas.
Parce que, encore une fois, elle était souple des adducteurs, parce que le grand écart, il est là. Et deux autres. Non. Vous ne pouvez pas voir les têtes de Pierre.
Je ne veux pas gâcher ce podcast. Déjà, je l'ai fait plein de fois. Les gens me détestent.
Bah, c'est pas ce qu'on voit dans les commentaires. C'est pas...
Ah ouais.
Je me souviens d'un. Moi, j'aime les blagues de Pierre.
Oui,
et on aime beaucoup ce commentaire qui n'est pas de moi.
Continuez à lui donner du soutien, s'il vous plaît.
Voilà. Full support.
Faudrait que je travaille sur toi à chaque fois avant que tu fasses.
Merci l'équipe. Donc, après, il y a deux autres noms. Hein. Il y a Ash Burns qui avait fait l'album Off the Map en 2013.
Okay.
Et enfin, ce groupe qui n'existe plus puisqu'ils ont une autre formation maintenant qui, je crois, s'appelle Irina Mons pour une partie des membres et qui s'appelait Decibel. Un trio qui a donc enregistré, je crois, le dernier...
Ça n'existe plus, Decibel ?
Ça n'existe plus, Decibel.
Ah bon ?
Je crois que c'est le dernier album, du coup, officiel enregistré avec Steve Albini pour un groupe français. Et ce disque s'appelait Rock Français, le bien nommé. Voilà, voilà.
Faut oser.
Ouais, des fois, hein, faut pas se poser de questions. pour finir, j'ai quelques questions à vous poser. Ça va prendre quelques secondes.
Des questions... C'est le moment où je peux faire une blague.
des questions à la cour.
Ça tombe bien, j'en suis un sacré.
Voilà. Vous êtes tout prédisposé à répondre, donc messieurs. Est-ce qu'il a bossé avec Fugazi?
Oui, pour Kill Taker.
Oui.
J'aurais dit oui, mais bon, après je sais pas.
Donc c'était en 92, c'est le 3 album de Fugazi. Mais par contre, il n'est pas dans les crédits.
Ouais. Bah, il y a plein d'albums où il n'est pas dans les crédits, où il a un pseudo
aussi. S'il prend juste un temps qu'un G-son, il n'est pas dans les crédits.
Ouais, mais là, je crois que c'est
aussi,
en fait, c'est une histoire où il y a plusieurs producteurs, du coup, il n'a pas été crédité en tant que producteur du truc. Mmh. Est-ce qu'il a déjà fait de l'illustration visuelle?
J'ai envie de dire oui, probablement.
Oh, ouais, bah, il y a du toucher à tout, oui. Donc oui.
Ouais, pour un EP du groupe L'O.
Ah putain, je savais pas.
Okay.
Alors, a-t-il travaillé avec Black Midi?
Yes, pour un live récemment.
Non, parce que c'est des merdes.
Oh là là.
Attends, tu parles à qui là?
Je sais bien que c'est bien. J'ai dit ça.
Il est chaud. En effet, c'était pour les 6 titres live en bonus de leur disque Hellfire en 2022. A-t-il bossé avec les Stooges?
Yes, pour le dernier en plus.
pour leur quatrième album The Weirdness en 2007, 34 ans après Raw Power.
Qui est pas terrible, mais c'est pas de sa faute. Ouais, c'est pas de sa faute.
Ah bah s'il laissait les artistes s'exprimer comme ils sont, c'est sûr que comme c'est des merdes.
Il y a aussi cette phrase qui dit on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Quel est son point commun insolite avec Patrick Bruel?
Quoi? Patrick Bruel. Ah, tu vois, je vais parler du gros sexe, c'était lui.
C'est un putain de champion de poker. Albini, il a genre une ou deux.
Il joue au poker avec. Avec cet homme qui devrait être en prison, mais bon.
Quel est son point commun insolite avec.
Il y en a plus pour longtemps.
Patrick Bruel. Ils en ont tous les deux gagné un bracelet, ce qu'on appelle un bracelet du tournoi de poker World Series.
Ah ouais, il était chaud. Ouais.
Donc lui, en 2018 et en 2023, Patoche en 98. Et oui, on ne le dira jamais assez, il a souvent beaucoup d'avance, ce cher Patrick. Et juste une anecdote supplémentaire.
Bah, il touche beaucoup plus tôt, quoi.
Voilà, c'est ça. Il voit les choses en avance.
Voilà, c'est ça ce que je voulais dire. Pardon.
C'est un précurseur. Donc, pour ce qui est de Steve Albini, en fait, le poker, ça lui a vraiment permis de payer ses factures, de faire grossir son studio et de payer ses employés.
Tu perds du pognon.
Ah non, mais non, parce que c'est le tournoi World Series. En fait, quand tu gagnes le bracelet.
De bracelet, pardon.
C'est, le bracelet, par exemple, lui, il a gagné une fois 80 000 $, je crois, et une autre fois 200 000 $. Et vu qu'en fait, il a beau être super productif, il n'a pas non plus des cachets délirants, bah, 200 000 $ à son échelle, c'est comme nous, 200 000 $. Donc ça représente quand même beaucoup.
Je suis d'accord, mais.
Et il gagne.
Ça veut, quand on joue au poker, je n'ai rien contre les gens qui jouent au poker, mais il y a un problème d'addiction et de. Il se droguait pas, il buvait pas, mais il avait d'autres problèmes, quoi.
Qui gagne perd, ça que tu veux dire?
Et qui perd gagne.
Qui perd gagne aussi.
Confucius ici. Voilà.
Et donc
je
voilà.
Je gratte les poils.
Chien à souligner votre performance sur ces questions-réponses, vous étiez plutôt bon. Et je n'ai pas décidé de vous voyer, Nicolas.
Ouais, c'est ce que j'allais dire.
Il aidait aussi les groupes juridiquement. Il y avait des groupes qui n'avaient pas les moyens d'avoir d'avocats et lui, il les aidait juridiquement. Ça, je l'ai lu dernièrement dans un truc où il disait si vous ne savez pas comment faire, ou en tout cas comprendre ce qu'il faut dire, etc., et pas se faire niquer, je peux vous donner des renseignements gratuitement. Et donc, il y avait des petits groupes qui venaient le voir pour lui dire voilà, on m'a dit ça, ça a l'air trop cool. Il disait non, c'est des cons. Bon, souvent, il devait être très vénère envers les grosses majors, mais apparemment, il aidait juridiquement.
Better Call Steve, quoi.
Non, mais c'est cool. Je trouve ça cool. Parce que quand t'es connu, parce qu'il est connu, enfin, il était connu. Mais tu as quand même peu tendance à te tourner vers les petits qui te demandent de l'aide pour un truc qui te rapporte rien, en plus qui est chiant. Enfin, c'est du juridique, c'est jamais le truc qui t'éclate. Mais il était quand même là pour essayer de guider. Il nous dit non, vous inquiétez pas, faire ça. Bon, peut-être qu'il faisait pas tout le temps, mais en tout cas, il l'a fait quelques fois. Je l'ai lu. C'était sur un journal qui était certain. Donc
un journal
Steve.
Papier, tu veux dire?
Un journal papier, oui.
Oui, bravo.
Moi, je l'ai lu en numérique, hein, parce qu'ils avaient bien sûr reculé tous ces journaux papier.
Voilà, je me disais bien que cette anecdote en cachait une autre.
Non, mais ça, c'est pas papier, ça, c'est glacé, c'est beau.
Ah bon? Pas celui que j'ai reçu.
Ah, l'enculé.
Ah, c'était papier cul, je peux te le dire.
Et que j'ai payé, en plus. Hein,
je tiens à dire que c'est un très, très bon magazine. Je dis pas ça parce que t'es là, mais c'est vrai que c'est très bien fait. Voilà.
C'est un très bel ouvrage, et aussi bien d'un point de vue
un peu d'argent, enfin, pas Nicolas, mais...
Que forme.
Son patron.
Ni Johnny Maître.
Allez.
Albini n'aurait pas été content. Mentor.
Donc, une conclusion pour tout ça. Donc, c'est un homme qui ne se voyait pas continuer d'enregistrer des albums si son audition n'était plus au niveau. Il se protégeait les oreilles en permanence, hein, même au café ou lors de ses parties de poker en tournoi. Son père avait perdu Louis à l'aune de ses 60 ans. Et donc, comme lui, il a à peine dépassé la barre des 60, bah, en fait, ça lui a créé cette espèce de peur qui fait qu'en fait, il avait tout le temps...
Donc, il était contre les appareils.
Non.
J'aimerais qu'on débatte là-dessus. Il était contre les appareils.
Écoute, Pierre, moi, j'ai pas d'avis sur la question, donc je pense qu'on évacue cette question. Avec ses qualités et ses défauts, on pourrait résumer en disant que c'était un vrai. Que
un
ça
vrai
se ressentait dans la personnalité du bonhomme, son style vestimentaire rudimentaire, ses déclarations, son travail. Et quand il parlait de l'héritage de sa carrière et qu'on lui posait la question, il répondait honnêtement d'en avoir rien à foutre. Ce qui l'intéressait, c'était de pouvoir faire ce métier, le faire hier, aujourd'hui et demain. Et en tant qu'auditeur, bah, ça sera pareil pour nous, hein, j'ai envie de vous dire, messieurs.
Ce sera que hier. Hein, non.
Ouais, complètement, ouais, ce sera que
hier. Et je suis bien content d'avoir pu voir Shellac.
Félicitations, t'es bien content qu'ils soient morts, t'es vraiment dégueulasse.
D'avoir vu Shellac avant qu'il passe l'arme gauche. Quoi.
Non, mais il est parti très tôt, c'est ça aussi qui est très surprenant. Mais c'était ses oreilles, sûrement. Enfin, moi, j'ai compris, il a mis du café dedans. Hein. C'est très compliqué, mais...
Et d'ailleurs, c'était une question que je me suis posée en préparant le podcast. Mais en fait, je n'ai pas cherché. C'est qui a essayé de bosser avec lui et au final, ça n'a rien donné. Les projets ratés, tu vois. Ça n'est pas sorti, tu vois.
Je sais pas.
Il doit bien avoir un article là-dessus où il a dit bah, tu sais quoi, j'ai bossé avec eux, mais c'était vraiment des chiasses. Moi,
ça, il y en a plein. Ça, y en a pas
mais
mal.
Mais il y avait déjà bien de choses à dire sur ce qui s'est passé.
Je crois que Frank Black et lui s'entendaient pas particulièrement.
En même temps, dis-moi avec qui s'entend Frank Black, ça aurait peut-être plus vite, j'ai l'impression. Il n'aurait pas l'air très facile.
Bah, avec qui s'entend et qui l'entend. Parce que. Excuse-moi, enfin bon, moi, je vais pas revenir là-dessus non plus. J'aime bien les choses bien faites. J'aime bien les fleurs. Et Frank Black, autant te dire qu'elle est bien fanée.
Et noircie. Mais...
Bon, je vais pas rebondir. Je vais m'arrêter là.
No disrespect tous les Pixies, ok.
Quelque chose à ajouter, monsieur?
Non, je t'aime, Steve. Quoi, voilà, c'est tout.
Okay. Bravo.
Non, toutes mes condoléances.
Si.
Non, mais personne ne l'entendra, mais bon, je l'ai dit quand même. Enfin, les gens qui écoutent le podcast, mais personne ne connaissait Steve Albini ou sa famille, donc je...
Mais on a donné aucun bémol hein, à ce son Steve Albini au personnage.
Bah, moi, je ne suis pas friand. Après,
bah, moi, on pourrait terminer là-dessus, ce serait une bien mauvaise conclusion, très optimiste, mais en effet, pareil, je ne suis pas très client, parce que...
Il y a des choses que j'ai trouvées géniales, pardon, mais j'avoue que la majeure partie du temps, c'est trop brut pour moi, c'est trop
sincère. Le son de batterie... Le son de batterie Albini, c'est le meilleur son de batterie.
Ah, tu fais mal à l'oreille.
En fait,
vraiment, j'ai une sensibilité à l'oreille qui fait que j'aime pas.
En fait, moi, je te dirais que l'exercice que j'ai fait, c'était de réécouter principalement les artistes que j'aime beaucoup, comme PJ Harvey, comme Metz, comme Ty Segall, etc. Et je trouve que c'est un son qui s'y est pas à tout le monde. Et notamment sur Metz, je pense que c'est pas le disque le mieux sonorisé pour eux, parce qu'en fait, tu perds le côté coffre. Ce que j'adore dans Metz, quand t'écoutes, c'est que t'as vraiment l'impression d'être avec eux, dans la pièce. C'est un truc très rond, certes très agressif, très, très frontal, tu te le prends en pleine gueule. Mais t'as pas... Moi, quand j'écoute, par exemple, l'album de Metz qu'il a fait, il est très bien. Hein. Mais par contre, j'ai l'impression qu'ils sont un peu séparés. Et t'as plus ce côté, genre, on est tous dans une pièce.
Écoute, réécoute Attack on Memory pour prendre un truc plus récent, on va dire. Et c'est...
Mais Attack on Memory et Cloud Nothing, c'est différent, parce que Cloud Nothing, justement, se revendique de tout le temps choisir un producteur différent pour avoir des albums qui sont différents. Là, ce que je veux dire, c'est juste Steve Albini a une patte. Mais je sais que c'est pas une patte que je vais chercher.
Je t'enverrai des albums et tu seras forcé de les
Il a pas dit qu'il appréciait pas certaines choses.
Je le prends personnellement.
Par contre, je ne reçois plus que les albums au format par courrier. Donc, ça va nécessiter un petit investissement. Voilà, c'est tout.
T'auras un lien Insta comme tout le monde, et voilà.
Avec tous mes albums pirates. Pardon, excusez-moi. Non, mais merci. C'était très, très intéressant. J'ai appris des trucs et
C'est pas toujours bien difficile quand même, Pierre, mais bon. Je prends le compliment quand même.
Ah non, mais alors ça, par contre, c'est vrai. J'apprends beaucoup de choses tout le temps parce que je ne sais rien. Non, mais ça, c'est vrai.
C'était ça la blague.
Mais je sais. Mais je tiens à signaler que je valide.
Ce qui est vraiment excellent, c'est
quoi, tu vois, ça va terminer. Tu vois, ça va terminer. Et ben, ça va terminer avec ça aussi. Et on va commencer par là.
Hein? Ce qui est très drôle, c'est que vous ne voyez pas la tête de Pierre parfois qui reçoit les remarques et qui les prend.
Mais non,
toi,
ta remarque, je l'aime bien. Mais la scène, je l'aime pas.
Merci à tous pour votre
écoute. Il a mis mon nom sur son t-shirt et ça me dégoûte.
Merci tout le monde.
Merci d'avoir écouté. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Hein. Bien sûr, sur Spotify, vous pouvez le faire. Vous laissez un commentaire le temps qu'on le valide et il apparaît. Et puis après, les gens peuvent échanger, continuer à discuter de ça. On va mettre tout ça sur nos réseaux, bien évidemment. N'hésitez pas à partager, à mettre un petit pouce, mettre une note aussi. Voilà, nous laisser des petits messages, que ce soit gentil ou pas. On s'en fout. C'est juste que c'est constructif. Même ceux qui sont négatifs, ça peut nous aider à avancer sur certaines choses. Et si vous avez des sujets, pareil, n'hésitez pas à nous envoyer des messages, que ce soit à mon adresse mail, hein, pierre@restless.com ou sur visuel-musique.org ou via Mono.
Faites un petit tour sur Mono, écoute mes disques.
Voilà, c'est ça l'essentiel. Enfin, il y en a deux sur les... Il y en a trois sur les quatre qu'on vient de donner de médias qui font de la bonne information. Bon, je vous laisserai choisir lesquels.
Allô.
Bisous.
Salut.
Toutes nos émissions et chroniques sont maintenant disponibles sur vos plateformes de podcasts préférées. Spotify, Deezer, Apple, Amazon. N'hésitez pas à vous abonner.